Parce que tu t'es révélé à nos cœurs et maintenant nous pouvons marcher, aller de l'avant, progresser, afin de pouvoir atteindre la stature parfaite qui est la tienne. Aide-nous encore ce soir à prendre cette nourriture spirituelle pour nous fortifier, pour nous aider à être encore mieux, pour te glorifier, pour bénir les gens qui nous entourent et pour pouvoir tirer une satisfaction aussi de notre vie. Merci Jésus. Amen. On va chanter « Je suis libre ». Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur le net. Dieu vous bénisse.
Je suis libre du péché, je suis libre de la mort, je suis libre, Jésus m'a délivré. Je peux vivre pour toujours un véritable amour avec lui pour l'éternité. Celui qui croit en lui quand même serait mort. Celui qui croit en lui. Celui qui croit en lui, quand même il serait mort. Hey, celui qui croit en lui, il vivra encore. Oui, je suis libre du péché, libre de la mort. Libre, Jésus m'a délivré. Oui, je veux vivre pour toujours dans un véritable amour avec lui, pour l'éternité.
Continuez avec Ruben, le testament des patriarches. Vous vous souvenez? Vous qui étiez sur Internet aussi, vendredi passé, vous avez vu qu'on a commencé cette étude. Je vous dis pas qu'on va faire ça tous les vendredis soirs, mais comme ça, de temps en temps, on va venir à ce livre, qui est un livre apocryphe, qui ne signifie pas douteux. Apocryphe ne signifie pas non inspiré. Hein. Apocryphe signifie, prenez votre dictionnaire et vous le saurez. Non, je vais vous le dire. Ça signifie tenu caché. Donc il était tenu caché. Par des hommes, par des femmes, parce que c'était la volonté de Dieu, voilà, que ça soit tenu caché. Mais à la fin, la Bible dit que la connaissance augmentera et les choses sortiront et les révélations viendront au cœur des hommes et des femmes et des enfants. Donc ce soir, on va lire dans le testament de Ruben, au chapitre 2, versets 1 à 9, puisque nous avons déjà lu le chapitre 1 la dernière fois et nous l'avons étudié un peu. Donc ce soir, c'est le chapitre 2, versets 1 à 9. Et maintenant écoutez, mes enfants, ce que j'ai vu quant aux sept esprits d'égarement pendant ma repentance. Sept esprits ont été distribués à l'homme. Ce sont les responsables des méfaits de la jeunesse. Sept esprits lui ont été donnés lors de la création pour que par eux soit accomplie toute l'œuvre humaine. Le premier est l'esprit de vie par lequel est établie la constitution de l'homme. Le deuxième est la vue d'où naît le désir. Le troisième est l'ouïe qui permet l'enseignement. Le quatrième est l'odorat d'où naissent les odeurs pour inspirer et expirer. Le cinquième est le langage d'où naît la connaissance. Le sixième est le goût qui nous fait manger et boire et qui produit la force. Car dans la nourriture est le fondement de la force. Le septième est celui de la procréation et de l'acte charnel, par qui s'unissent au travers de la sensualité les péchés. Aussi est-ce le dernier dans l'ordre de la création et le premier dans l'ordre de la jeunesse, car il est rempli d'ignorance, et dans cette dernière qui conduit, et c'est cette dernière qui conduit le jeune homme comme un aveugle dans la fosse, et comme un animal dans un précipice. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce que Ruben dit là à son fils, à ses petits-fils et aussi à ses trois frères, vous rappelez qu'il avait trois frères avec lui, ça peut nous sembler bizarre. Mais souvenez-vous que ces choses ont été écrites il y a très longtemps. Très longtemps. Aujourd'hui, nous savons des choses que ce brave Ruben ne pouvait pas savoir. Pour illustrer ce que je veux démontrer ce soir, je vais prendre un texte dans la Bible qui se trouve dans Actes chapitre 1, verset 8. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est Jésus qui parle et qui dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Qu'est-ce que ce texte a à voir avec ce que je viens de lire de Ruben? Nous savons aujourd'hui que le Saint-Esprit est Dieu. Nous savons que c'est l'Esprit de Dieu. Hein? Pourtant, Jésus dit bien, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. C'est en cela qu'il est saint. C'est un esprit qui est saint parce qu'il est Dieu. Or, il nous est dit ailleurs, dans Jean 1, 4, 5, que Dieu est lumière. Aujourd'hui, nous savons que la lumière, c'est de l'énergie, c'est de la puissance. Il nous est dit que la lumière luit dans les ténèbres. Si la lumière est une puissance, les ténèbres sont aussi une puissance. Alors, quand un homme ou une femme vient à Jésus, il devient l'habitation de Dieu, c'est-à-dire de sa puissance. Mais nous avons toujours en nous ce qui nous constitue, c'est-à-dire ce que Ruben appelle des esprits, c'est-à-dire des puissances. Vous me suivez? Ce n'est pas des fantômes, c'est des puissances. Par exemple, la première puissance, c'est la puissance de la vie. Nous savons que c'est parce que notre esprit éternel, mon vrai moi, c'est pas mon âme, mon vrai moi, c'est mon esprit éternel. Quand mon esprit éternel est venu entrer et qu'il est entré dans mon corps, c'est ce qui a fait que je suis devenu un être vivant. Ça, on apprend ça dans la Genèse. Être vivant, ça veut dire âme. Donc, c'est l'esprit de la vie, c'est-à-dire la puissance de la vie. Cette puissance qui nous mène toujours en progression, qui fait de nous des gens actifs, qui fait qu'on bouge, qu'on est voilà. Notre deuxième puissance, c'est celle du regard, la vue, le regard. Là, Ruben il dit que c'est de là que naissent les désirs. C'est ce qu'il dit Ruben. Mais quand on regarde Genèse 3:6, on apprend que Ève elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et là, elle a désiré. Vous comprenez? Et en fait, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. On est toujours attiré, hein, quand on est sans arrêt en train de regarder, l'œil n'a jamais fini de regarder, il veut toujours en voir plus. Et ça éveille en nous des désirs. La troisième puissance qui est en nous pour nous égarer, c'est la puissance de l'ouïe. Ruben dit que cette puissance-là, elle permet l'enseignement. On entend avec les oreilles, mais on entend, c'est-à-dire on comprend avec le cœur, avec le cerveau, mais il faut bien que ça passe par les oreilles. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on comprend de la parole de Dieu, mais il n'y a pas que ça, le doute aussi vient de ce qu'on entend. Le doute vient, les craintes viennent de ce qu'on entend, de toutes sortes de mauvaises choses qu'on peut entendre. Toutes ces mauvaises choses viennent dans notre vie par l'ouïe, des enseignements faux, des suggestions, ou même de l'autosuggestion, des choses qu'on se dit. Est-ce que vous n'êtes pas souvent en train de dire « qu'est-ce que je suis bête ?» Ben, vous vous entendez dire. Et puis c'est pourquoi on doit faire attention à ce qu'on entend, à ce qu'on écoute, ne pas écouter n'importe quoi. Et aussi, nous devons faire attention pour comprendre ce qu'on écoute. L'ouïe est une puissance. Parce que celui qui enseigne, il est responsable de ce qu'il dit, mais celui qui est enseigné, il est responsable de ce qu'il comprend. Moi, je peux vous enseigner des choses parfaitement vraies, et vous allez comprendre parfaitement tordues. Vous êtes responsable, c'est pas ma faute, là, c'est vous. Donc, l'ouïe, c'est une puissance. Il faut la tenir en éveil, il faut la maîtriser. Il faut pas accepter d'écouter, d'entendre n'importe quoi. Et puis, Ruben, ensuite, il nous parle d'une quatrième puissance, celle de l'odorat. C'est une puissance qui agit dans la subtilité. Je sais pas vous, mais moi, il suffit que je sente une odeur pour que ça fasse remonter des souvenirs qui sont enfouis dans ma mémoire depuis des dizaines et des dizaines d'années. Très souvent, tout d'un coup, je dis, oh là là, ça me fait penser à ma grand-mère. Une odeur de gâteau, une odeur de... C'est vrai, ça vous fait pas ça, vous? Une odeur, ça peut être ensorcelant, ça peut être envoûtant, parce que la puissance de l'odorat passe par la puissance du souffle. Et le souffle, c'est pas rien. Le souffle, c'est la vie. Quand on tape sur les fesses d'un nouveau-né, Il respire là. Et il vit, il se met à vivre par lui-même. Un jour, on expirera, on respire, on expire. Nous rendrons notre dernier souffle. La Bible dit que nos offrandes sont agréables, sont des agréables odeurs devant l'Éternel. Éphésiens 5, 2. Ce qui émane de nous, nos offrandes. Nous sommes nous-mêmes soit une odeur de vie, soit une odeur de mort. Vous voyez qu'il y a une grande puissance là, une très grande puissance. Ce qui émane de nous, ça peut donner la vie et ça peut donner aussi la mort. 2 Corinthiens 2, 14, 16. Nous sommes, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, l'odeur de Christ. Alors, que penser de ce que sont les méchants? Ça sent le soufre. L'esprit d'odeur, voyez, il parle de l'esprit d'odeur, la puissance de l'odeur, la puissance du souffle, la puissance du souffle. Et à cause de la rébellion de l'humanité, maintenant c'est devenu une puissance de séduction, celle des artifices. On crée une ambiance avec les odeurs. Vous avez remarqué, de plus en plus maintenant, même dans les supermarchés, on vous vend des petites bougies à l'odeur de sapin. Ça c'est une petite blague. Voyez-vous, mes frères et sœurs, les artifices, on peut créer, faire des choses, on peut séduire. Mais cette puissance, elle peut être maîtrisée par la puissance sainte, c'est-à-dire par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. Nous ne sommes pas obligés d'être des victimes et nous ne sommes pas obligés de faire des victimes en exhalant des mauvaises odeurs. Puis, cinquièmement, il y a la puissance du langage. La langue, elle se vante de beaucoup de choses, et si elle n'est pas maîtrisée, elle fait battre des montagnes. C'est tout petit, la langue, c'est un peu comme un gouvernail, mais elle a le pouvoir de la vie et de la mort aussi. Elle peut vous conduire à bon port, mais elle peut vous conduire aussi dans les récifs, et puis faire sombrer votre vie. Parce que vous dites, vous vous liez ou vous vous déliez. Je vous donne pas tous les versets, vous les connaissez. Par vos paroles, vous montrez votre fatuité, votre orgueil ou votre sainteté, votre sagesse. C'est une puissance qui doit être maîtrisée. Les païens ne maîtrisent pas. Très difficile pour eux de maîtriser. Vous avez des gens, ils sont plus portés sur les choses de la parole que sur les choses de l'ouïe ou que sur les choses de l'odorat. Mais enfin, de toute façon, ils sont trahis par l'un. Nous avons le Saint-Esprit pour maîtriser toutes nos puissances. Par la puissance du Saint-Esprit. C'est une puissance qui est à maîtriser. Sinon, elle est une puissance d'égarement. Parce que ça va toujours vers le bas du fait que l'humanité s'est détournée de Dieu. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en parlant, en confessant de la bouche, qu'on parvient au salut. Vous voyez, le parler est important. Romains 10, 10. Communiquer, parler. À la fin des temps, la Bible nous enseigne que les gens adoreront les fables plus que la vérité. Ils aimeront les mensonges, les fables. Eh bien, c'est la langue des faux prophètes qui distille justement des fables néfastes qui empoisonnent le monde. Nous avons parmi nous un frère et une sœur qui sont allés à un enterrement. Et le prêtre, il a fait comme Michel Polnareff. Il a envoyé tout le monde au paradis. Jésus a dit, je ne rejette pas celui qui vient à moi. Oui, mais c'est là, sur cette terre, qu'on vient à lui. Et c'est pas, on vit comme n'importe comment, et puis tout d'un coup, voilà, on meurt, alors on arrive devant Dieu, alors Jésus ne nous rejette pas, vous croyez que c'est comme ça? Non, non, c'est un faux prophète, cet homme qui dit des choses pareilles. Et combien disent des choses comme ça? Combien enseignent des choses comme ça? Ce sont des fables, et c'est le langage. Mais les gens croient ça, c'est tellement plus facile, c'est tellement plus gentil de croire ça que de croire ce Jésus dur, n'est-ce pas, qui dit « celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné ». Terrible, n'est-ce pas? La langue, c'est aussi une puissance qui permet de déguiser nos sentiments. La langue, elle cache des choses en se taisant. Par exemple, les enfants ne racontent pas à leurs parents, ne disent pas. Eh bien, vous voyez, c'est une puissance, la puissance du silence. la puissance du langage qui n'est pas exprimée, c'est une puissance aussi. Et la Bible nous dit que la langue est beaucoup plus habile au mal qu'au bien. La sixième puissance d'égarement, c'est le goût. Si la nourriture avait un sale goût, il y aurait beaucoup moins de gloutons qui creuseraient leur tombe avec la fourchette, non, vous croyez pas? Et si le vin, c'était mauvais, eh ben, il y aurait moins de gens pour en abuser. On dirait, à la fin, ils sont tellement ivrognes qu'ils boivent même du vin en carton, ça leur fait plus rien, mais quand même. La septième puissance est la puissance sexuelle, la puissance de l'acte charnel. Et c'est par cette septième puissance que toutes les autres s'unissent à travers de la sensualité, des sens. C'est la dernière puissance, il nous dit Ruben, dans l'ordre de la création. Pourquoi cela? Mais parce que l'homme n'avait pas été créé pour avoir, pour se reproduire sexuellement parlant. L'homme devait être l'épouse de Dieu. Et Dieu doit être le Père. Il a commencé comme ça avec Adam. Il a été le Père de Ève en ayant une relation qui n'était pas sexuelle avec Adam. Et c'était comme ça que ça devait se passer. Ça s'est passé ensuite avec Jésus qui est le second Adam. Dieu est allé vers Marie et un enfant est né. Et quand nous serons enlevés d'ici, nous serons quoi? La chair de M. Seguin? Non, on sera l'épouse de Dieu. C'est la dernière puissance dans l'ordre de la création parce que cette puissance-là n'existait pas chez l'humain avant la relation d'Ève avec le serpent. Par contre, c'est cette puissance-là qui est devenue numéro un parce que tout est apostasié à cause du péché. Ce qui est tout en bas est mis tout en haut et maintenant la jeunesse perd son innocence en perdant sa virginité. C'est comme ça. Alors la jeunesse qui est remplie d'ignorance, qui veut rien savoir, qui croit tout savoir, elle réveille là une puissance qu'elle n'arrive ensuite plus à maîtriser. Et puis c'est comme un incendie, ils allument un feu en pensant qu'ils vont... Et ils n'en sont pas maîtres. Ce n'est que par le Saint-Esprit qu'on peut être maître. C'est cette puissance, la septième, qui conduit les jeunes gens dans la fosse. Ils tombent dedans comme des aveugles. Ils ne voient pas le réel danger. Ils tombent comme des animaux dans un précipice. Voilà ce que nous dit Ruben. Et il met en garde ses enfants. Il leur dit, voilà, ça c'est des choses que je dois vous dire maintenant avant de partir. Il est sur le point de mourir. Il faut que je vous dise ça, c'est mon testament. Et nous savons maintenant que nous avons en nous ces sept puissances d'égarement. Ne pensez pas que vous êtes possédé par sept mauvais esprits. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des puissances qui ont été mises en vous que vous devez maîtriser. Nous sommes complètement désarmés devant ces puissances à moins que nous soyons revêtus de la puissance par le Saint-Esprit. Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est par cet Esprit Saint que nous pouvons faire mourir et que nous pouvons maintenir la chair, les œuvres de la chair, de notre âme, de nos sens, dans la mort. Sinon, on ne peut pas y arriver. Chasse naturelle, il revient au galop. Soit nous marchons avec ces esprits qui nous guident, soit nous marchons en communion avec le Saint-Esprit qui nous guide, tel le bon berger qui nous protège et qui, de temps en temps, si on fait une boulette, nous corrige. C'est normal. Il va pas nous assassiner parce qu'on a fait une boulette. Il nous aime toujours, mais il nous corrige afin qu'on apprenne et puis qu'on aille de mieux en mieux. Frères et sœurs, il faut pas se voiler la face. Beaucoup de gens disent, je me suis converti, mais en fait, voilà, j'ai toujours des tentations. Évidemment, puisque vous avez ces sept puissances en vous, vous êtes tenté par là. Vous voyez, frères et sœurs? Voyez maintenant par quel esprit vous êtes animé. Voyez maintenant par quelle puissance vous êtes animé. Quand je dis esprit, ça ne veut pas dire petit démon. Ça veut dire ces puissances qui sont en vous, la puissance du péché. Et toutes ces puissances, et cette puissance se mettent ensemble pour faire le péché. Le péché qui vient en vous, ce n'est pas vous qui le faites, c'est le péché qui le fait. Mais n'empêche que vous avez la maîtrise, si vous le voulez, par le Saint-Esprit. Vous pouvez dire, comme disait notre frère Billy Graham, par la puissance de Dieu, vous pouvez dire non. J'aimais bien quand il disait ça. C'est beau. Si nous résistons par contre à Jésus, il y a sept autres esprits encore plus méchants qui peuvent venir s'installer en vous. Ça, c'est dans Matthieu 12, 48. Et c'est pourquoi la condition d'une personne qui rejette Jésus, elle est pire encore qu'avant. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte à vous remettre chaque matin entre les mains de Dieu. Je vous exhorte à veiller, je vous exhorte à prier. Ces esprits-là C'est vrai, ils sont en nous. Et notre rôle, eh bien, c'est de les maîtriser au nom du Seigneur Jésus, pour la gloire de Dieu, puis aussi pour qu'on soit bien en communion les uns avec les autres, et puis bien dans notre peau. Sinon, on n'est pas très très bien, c'est, il faut vraiment le dire. Amen. Alors que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide à marcher fidèlement selon le Saint-Esprit, dans la maîtrise de cet esprit, c'est cette puissance qui essaie de nous égarer. Amen. Amen.